Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale revient sur le sommet international sur les déplacements massifs de migrants et de réfugiés, sommet tenu au siège de l'ONU le 19 septembre. Un sommet très attendu pour tenter d'apporter certaines réponses aux défis et drames observés en Afrique, en Méditerranée, en Europe, mais aussi dans d'autres régions du monde. Le sommet international sur les déplacements massifs de migrants et de réfugiés a donc été ouvert le 19 septembre par le président de l'Assemblée générale, le Fidjien Peter Thomson, avec l'adoption, en la présence de dizaines de chefs d'État, de la déclaration de New York. Un texte par lequel les dirigeants du monde s'engagent à protéger les droits des réfugiés et des migrants et à sauver des vies. En 2015, on comptait 244 millions de migrants et 65 millions de personnes déplacées de force, dont 21 millions de réfugiés et 3 millions de demandeurs d'asile. Les États se sont également engagés à lancer des négociations en vue de l'adoption en 2018 d'un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Le point avec Isabelle Dupuis.
En adoptant la déclaration de New York, les États s'engagent à protéger les droits de l'ensemble des migrants et des réfugiés, quel que soit leur statut. Le texte aborde la nécessité de protéger les femmes et les filles de toute forme d'exploitation, de combattre la traite des êtres humains, de cesser de détenir les mineurs pour déterminer leur statut migratoire et d'assurer la scolarisation des enfants migrants ou réfugiés. Le document appelle également à promouvoir un partage plus équitable de la charge et des responsabilités que représente l'accueil des réfugiés et à améliorer l'assistance humanitaire et l'aide au développement aux pays les plus directement touchés. La déclaration appelle aussi à mettre en place un cadre exhaustif pour faire face aux déplacements à large échelle et aux situations de réfugiés prolongées. Par ce texte, les États appellent en outre à assouplir les formalités administratives afin d'accélérer les procédures d'admission et d'accroître la diversité des voies de droit offertes aux réfugiés pour être admis ou réinstallés dans des pays tiers. Enfin, la déclaration de New York engage les pays hôtes à envisager de leur ouvrir leur marché du travail.
Commentant l'adoption de la déclaration, Filippo Grandi, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a rappelé qu'à la mi-septembre, le nombre de réfugiés fuyant le Soudan du Sud avait dépassé la barre du million de personnes. Il a fait valoir que la déclaration de New York marque un engagement politique avec une résonance sans précédent. On l'a dit, de nombreux chefs d'État, chefs de gouvernement et ministres ont participé au sommet, à l'instar du président du Tchad, Idriss Déby, qui a souligné que la crise des réfugiés et des migrants affecte nombre de pays et de continents et exige une solidarité renforcée de la communauté internationale.
L'Afrique est l'un des théâtres de cette tragédie. Mon pays, le Tchad, illustre à merveille la problématique de l'humanitaire aujourd'hui. Entouré de foyers de tension, le Tchad accueille depuis plus d'une décennie des centaines de milliers de personnes réfugiées et déplacées. Est-il besoin de le souligner? Le Tchad est le troisième pays en Afrique, après le Kenya et l'Éthiopie, qui accueille sur son territoire un nombre considérable de réfugiés estimé à plus de 750 000 personnes, et c'est depuis 2003 à nos jours. À cela s'ajoutent les 130 000 retournés tchadiens de la République centrafricaine qui attendent encore leur réinsertion dans leurs zones respectives d'accueil sur le territoire national. L'un des premiers pays à avoir ratifié la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées, le Tchad, conformément à ses engagements internationaux et avec l'appui de ses partenaires, notamment les Nations Unies, l'Union européenne, l'Organisation internationale des migrations, a apporté l'aide d'urgence en offrant l'accueil et la protection nécessaires aux déplacés, réfugiés et migrants.
Autre dirigeant africain à intervenir, le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, Abdallah Albert Wakez Mabri, qui a affirmé que les déplacements massifs mettaient à mal les capacités de réponse des pays d'accueil et suscitaient parfois au sein des populations d'accueil des sentiments négatifs de xénophobie, de racisme ou de discrimination. L'action pour relever les défis que soulèvent ces déplacements massifs n'en sera plus efficace que si elle s'attaque aux racines du problème.
Notre action pour relever les défis que soulèvent ces déplacements massifs n'en sera plus efficace que si elle s'attaque aux causes profondes qui fondent ces mouvements sans précédent de personnes. Il s'agit donc pour nous de renforcer au niveau régional et international nos mécanismes de diplomatie préventive pour prévenir les conflits, encourager un règlement pacifique des différends et consolider la paix. Il s'agit également pour nous de promouvoir l'état de droit et le respect des droits de l'homme. Il s'agit surtout pour nous de renforcer la coopération internationale afin d'aider les pays d'origine à lutter plus efficacement contre la pauvreté, l'exclusion et la marginalisation de certaines populations. Il s'agira ici de promouvoir l'équité et la justice sociale, de lutter contre les flux illégaux de capitaux, mais aussi et surtout d'encadrer l'exploitation des ressources naturelles pour qu'elles servent d'abord les intérêts des populations les plus souvent vulnérables.
Les pays occidentaux et européens ont aussi pris la parole. Ainsi, Jean-Marc Ayrault, le ministre français des Affaires étrangères, a rappelé que la crise actuelle des réfugiés et des personnes déplacées est la plus importante que le monde ait connue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, soulignant que les 65 millions de réfugiés et de déplacés actuels représentaient l'équivalent de la population de son pays. Le chef de la diplomatie française qui a particulièrement mis l'accent sur le Moyen-Orient.
C'est en Syrie. Incontestablement que la situation est la plus dramatique et la plus déstabilisante, à commencer pour les pays voisins. Plus de 300 000 morts, plus de 10 millions de réfugiés et de déplacés, plus d'un million au Liban, plus de 600 000 en Jordanie, 2 500 000 en Turquie. Face à cette situation, l'honnêteté oblige à dire que notre réponse collective n'a jusqu'à présent pas été à la hauteur. Face à ces drames individuels et collectifs, c'est d'abord à l'État qu'ils ont fui de créer les conditions de leur retour. Mais nous pouvons contribuer, nous aussi, à leur redonner espoir. Nous pouvons leur donner les moyens de construire une autre vie. Nous pouvons former la génération de ceux qui sont et feront la Syrie de demain. Pour tout cela, non, il n'est pas trop tard. Notre responsabilité est donc immense. Accueillir ces exilés d'une part, dans la dignité et le respect du droit international qui nous impose de ne pas leur fermer la porte. Mais aussi aider les pays qui assument de manière disproportionnée l'exigence de solidarité qui s'impose à nous tous, mais à laquelle nous ne répondons pas tous équitablement.
Autre pays européen à intervenir, la Confédération suisse, par la voix de Simonetta Sommaruga, la chef du département fédéral de la justice et de la police, a fait valoir que l'histoire montre qu'il existe deux manières de réagir à des situations de crise d'une ampleur mondiale, le repli sur les préoccupations strictement nationales ou la prise de décisions courageuses et innovantes qui font avancer la cause de la diplomatie multilatérale.
L'année dernière, l'Europe a connu ce que de nombreux pays d'Afrique ou du Moyen-Orient vivent depuis des décennies, l'arrivée quotidienne de milliers de personnes à la recherche de protection ou d'une vie meilleure. Comment l'Europe a-t-elle réagi face à ce défi, certes de taille ? Nous l'avons vu, l'Europe n'était pas préparée. Souvent dépassée, elle n'a pas réussi à donner à cette crise une réponse commune. La crise nous l'a malheureusement montré. Dans les situations d'urgence, nombreux sont ceux qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Aujourd'hui, il n'existe toujours pas de politique d'asile commune au niveau européen. Cependant, l'arrivée de milliers de personnes fuyant la guerre a donné lieu à une action commune en Europe. Les programmes de relocalisation et de réinstallation ont été décidés l'année dernière sous haute pression politique. Même s'ils ne vont pas assez loin, ils vont au moins dans la bonne direction, celle d'une responsabilité partagée. Dès lors, ne permettons pas que la migration soit exploitée par les partis populistes à des fins de politique intérieure.
Au-delà des discours, des bonnes intentions affichées lors de ce sommet, des initiatives ont été lancées comme celle du Canada, du HCR et de l'Open Society Foundation. Objectif, accroître le parrainage privé des réfugiés à travers le monde. Un système qui, comme l'explique John McCallum, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, facilite l'intégration des réfugiés et leur réinstallation, et ce grâce au soutien social fourni par des parrains. Un système en fait qui est victime de son succès.
Il y a deux genres de réfugiés, les réfugiés payés par le gouvernement et les réfugiés du secteur privé. Et dans le cas du gouvernement, c'est le gouvernement qui paye et on donne un revenu de base pour les réfugiés pour la première année. Dans le cas des citoyens, ce sont eux qui payent les frais de transport et le logement et les autres besoins pour un an. Et donc, il y a une compétition maintenant au Canada. Il y a tant de gens qui veulent faire cela qu'on n'a pas assez de réfugiés pour satisfaire la demande.
Le sommet des migrants et des réfugiés qui a aussi été marqué par le lancement, par le secrétaire général de l'ONU, de la campagne Ensemble qui vise à lutter contre la xénophobie dans le monde. Intervenant plus tard devant un groupe de réfugiés, Ban Ki-moon a expliqué pourquoi il a tenu à organiser ce sommet en dépit de la résistance, a-t-il révélé, de certains États membres.
When I was 6 years old, the Korean War broke out. Lorsque j'avais 6 ans, la guerre de Corée a éclaté. Mon village a été brûlé et j'étais obligé de fuir de chez moi. J'étais l'un de vous. La vie était très difficile et j'ai grandi sans lumière, sans électricité, sans eau potable. Les Nations Unies sont arrivées avec des troupes et de l'aide humanitaire. Je suis toujours conscient de cette dette et de ma gratitude envers les Nations Unies. Je fais tout mon possible en tant que secrétaire général pour permettre aux migrants et aux réfugiés de contribuer à notre avenir commun. Lorsque je vois un enfant dans un camp de réfugiés, je ne vois pas uniquement la faim, la douleur et la peur. Je vois une fille ou un garçon qui mérite qu'on lui donne la chance de grandir fort et en bonne santé et de contribuer à notre monde.
Autre présence, autre témoignage avec Michaël Jean, la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a quitté Haïti avec sa famille pour échapper au régime de François Duvalier et qui a trouvé refuge au Canada, comme elle l'a expliqué à Christina Silvero.
Alors, tout d'abord, je veux témoigner. Il était important pour moi de venir ici portant, je dirais, la force de proposition et d'action de la francophonie sur cette question d'extrême urgence et de dire, vous savez, pour moi, ce n'est pas une statistique, ce ne sont pas des données, c'est un chapitre de ma vie, je suis passée par là. Je crois que dès lors que l'on peut témoigner ainsi, au nombre des décideurs présents, des chefs d'État et de gouvernement, nous n'étions pas nombreux, et je suis probablement la seule à pouvoir dire ça, et de dire une phrase qui a eu beaucoup de résonance. Qui l'eût cru que la petite réfugiée d'Haïti serait un jour appelée à porter la plus haute responsabilité politique en qualité de gouverneur général et commandante en chef du Canada, et aujourd'hui secrétaire général de la francophonie. Cette phrase est très chargée pour introduire ce que la francophonie engage comme action sur cette situation d'extrême urgence des réfugiés et des migrants. Pourquoi ? Parce qu'elle dit d'une part, parmi ces personnes, ces femmes, ces hommes, ces enfants, qui prennent tous ces risques, qui sont exposés de manière tragique, qui y laissent parfois leur vie, mais parmi ceux qui sont les survivants de ces expéditions, n'oubliez pas qu'ils arrivent, oui, dépossédés, mais qu'ils arrivent aussi avec beaucoup à offrir. Il faut savoir accueillir, il faut respecter, je pense, ce que ces personnes, sortons-les, hein, vous savez, l'étiquette réfugiés, migrants, ont à offrir, alors même qu'elles ont à traverser cette situation des plus, je veux dire, désastreuse dans une vie, mais on peut s'en relever et avec force et contribuer là où on nous accueille à l'essor de ces pays qui font de nous de nouveaux citoyens.
Enfin, à noter qu'en marge du sommet, l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, et l'ONU ont signé un accord qui fait de l'OIM une agence à part entière du système des Nations Unies. Selon le directeur général de l'OIM, ce rapprochement vient à point nommé, étant donné la crise des migrations qui s'étend de l'Afrique de l'Ouest à l'Asie. Ce rapprochement est d'autant plus naturel que les deux organisations coopèrent déjà depuis 65 ans. Des propos de William Lacey Swing, recueillis par Christina Silvero.
Bon, premièrement, ça va nous donner une place à table. On n'avait pas avant. On était parfois exclus dans les discussions. Par exemple, on était exclu de le soi-disant dialogue à haut niveau. On était exclu en 2013 parce qu'on n'était pas membre des Nations Unies. Même si nous étions l'agence globale pour la migration, on était exclu et ça n'arrive plus maintenant. On aura accès à l'information et à les fonds, n'est-ce pas, pour faire des projets. Hein.
Et l'ONU sera, pour sa part, plus rattachée au terrain?
Oui, je crois. On va être vraiment plus efficace avec nos partenaires, surtout avec HCR, avec le Haut Commissaire pour le droit de l'homme, avec PNUD, avec toutes les autres agences, n'est-ce pas? Nous sommes des partenaires depuis beaucoup d'années, mais maintenant, on est plus ou moins au même niveau.
Voilà, et c'est avec le sommet sur les déplacements massifs de réfugiés et migrants que se referme ce magazine Escale, un magazine présenté cette semaine par Jérôme Longuet, avec la collaboration de Christina Silvero, d'Isabelle Dupuis et de Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet et sur les médias sociaux les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.